ouvert.
Bonjour, ici Cécile sur Green Radio, la radio de la classe Agenda 21 des premières ESA du lycée G de Beaufort à Périgueux. Pour cette première émission, nous avons choisi de parler de la COP 21 qui se tiendra début décembre à Paris. Cette nouvelle conférence sur le climat témoigne de la prise de conscience sur l'importance des enjeux du développement durable. Ce concept est aujourd'hui de plus en plus utilisé, mais sait-on réellement ce que c'est ? Un reportage de Clara, Lara et Laura.
Qu'est-ce que le développement durable ? C'est le développement qui permet de répondre aux besoins actuels sans empêcher les générations à venir d'en faire de même. Il est basé sur trois piliers : environnemental, social et économique. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour le pilier environnemental, on peut veiller à éviter le gaspillage comme celui de l'eau lorsque l'on se lave les dents. Au lycée, les élèves gèrent et valorisent les déchets depuis maintenant 2 ans grâce au tri mis en place au SELF. Ou bien chez soi, on peut ne pas jeter tous les déchets à la poubelle et faire du compostage.
Maintenant pour le pilier social, on peut lutter contre l'exclusion et les discriminations, favoriser la solidarité, contribuer au bien-être de chaque individu, comme par exemple la facilité d'accès aux lieux publics pour les personnes à mobilité réduite. Et au niveau économique, développer des pratiques commerciales innovantes pour mieux répartir les bénéfices et les richesses, comme le commerce équitable ou le microcrédit. Ainsi que le covoiturage qui permet d'atteindre les 3.
Concrètement, comment peut-on agir pour atteindre ces 3 piliers ? Le 9 octobre, les terminales ESA sont allées à Bordeaux pour recevoir le premier prix académique du développement durable. Ils ont interviewé Virco, vice-présidente de la région Aquitaine en charge de l'environnement et de l'adaptation climatique.
De la mobilité durable ? Alors, pour moi, la mobilité durable, ce sont les déplacements, mais en faisant le moins d'impact de CO2 et de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, c'est comment on peut réfléchir de façon à ce que ce soit pertinent pour la protection de l'environnement.
Et alors à ce moment-là, est-ce que vous considérez que la mobilité en Aquitaine peut être qualifiée de durable ?
Non, pas exactement. On voit bien qu'en Aquitaine, bon, bien sûr, il y a le milieu urbain, mais il y a aussi le reste de l'Aquitaine, etc. On voit bien qu'il faut vraiment mener une réflexion sur comment on se déplace. C'est-à-dire, évidemment, ça remet en question un petit peu le mode de fonctionnement, puisqu'il faudrait bien sûr rapprocher les lieux de développement économique, d'emploi avec l'habitat. Alors donc, bien sûr, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en place. Et vous avez les TER pour vous déplacer. Mais ensuite, vous avez un tramway, comme sur Bordeaux. Vous avez aussi, et ça on l'oublie un petit peu, des possibilités de déplacement vélo et piéton. Quand on voit Amsterdam, Berlin, on voit bien que ça a été pensé, pas seulement pour la voiture, mais aussi pour d'autres modes de déplacement. Et moi, je suis frustrée de voir qu'ici, à Bordeaux, milieu urbain, etc., on pourrait vraiment faciliter, nous aussi, des déplacements vélo. Et même les TER, les trains qui sont quand même assez utilisés, il n'y a pas suffisamment, c'est pas du tout, comment dirais-je, ça pourrait être beaucoup plus opérationnel.
La région fait donc des efforts. À G de Beaufort, des actions sont aussi mises en place. Aurélien, Martin et Sergio sont allés interroger M. Bournet, chef cuisinier au lycée, et Mme Barrière, professeure d'histoire-géographie.
Quelles sont les actions pour lutter contre le gaspillage ?
Alors les actions qu'on a mises en place, c'est notamment un affichage que vous pouvez voir là, incitant les gens à ne prendre dans l'assiette que ce qui leur fait besoin, et une sensibilisation au niveau du pain. Les gens demandent aux gens de se limiter, c'est-à-dire 3 tranches de pain par personne.
D'accord. Comment vous gérez les déchets ?
Alors actuellement, il y a 2 types de gestion, 3 même, on va dire. Les déchets non recyclables partent en sac poubelle normal. On a mis en place des poches jaunes à l'attention des élèves pour trier tout ce qui est emballage de yaourt, des choses comme ça. Ça marche pas encore très bien parce qu'il faudra faire une petite campagne d'information vu que les gens mettent n'importe quoi dans les sacs jaunes, notamment tout ce qui est serviettes papier qui, elles, n'ont pas à se recycler. Et ensuite, tout ce qui est déchets alimentaires, le maximum est collecté pour partir vers le lycée agricole de Coulounier pour l'usine de méthanisation. On a un camion de la ville de Périgueux qui va venir récupérer les containers qui sont à l'extérieur, dans lequel nous, on aura stocké tout ce qui est déchets alimentaires.
D'accord.
Donc ça commence à bien fonctionner. Par contre, c'est juste la deuxième année que l'on fait ça. C'est un partenariat entre la ville de Périgueux, le lycée et le lycée agricole.
D'accord. Quels sont les résultats de l'action du tri?
Pour l'instant, c'est, comme je vous dis, c'est assez mitigé. Il y a des gens qui font l'effort vraiment de trier, de mettre le pain dans les poubelles mises à cet effet, et puis d'autres qui font exprès de tout jeter dedans. Donc là, il va falloir ultérieurement qu'il y ait une campagne de sensibilisation et que quelqu'un surveille, ce qui était le cas l'année dernière, puisque ça avait été pris en main par le président des étudiants, qui lui-même s'était chargé un peu de surveiller, d'indiquer à ses collègues tout ce qu'il fallait faire. Et cette année, il va falloir recommencer un peu dans ce sens et au maximum de jeter en poubelle noire en tout venant.
Quelles sont les actions pour sensibiliser les élèves?
À l'échelle du lycée?
Oui.
Alors, à l'échelle du lycée, on agit en fonction du niveau. Les secondes découvrent le développement durable d'un point de vue pratique. Et on commence par prendre un thème. Les déchets, l'eau, ça peut être aussi l'énergie, l'alimentation. Donc chaque année, on choisit pour la classe développement durable un thème. Thème qu'ils vont approfondir pendant l'année. Et ce thème leur permettra de faire une entrée où ils pourront ensuite élargir. Dans le cadre d'une classe de première et terminale, souvent le développement durable a une utilité beaucoup plus globale. Et on va faire en sorte que les élèves deviennent des acteurs de décision. C'est-à-dire qu'ils ont des notions, ils voient les problèmes au niveau planétaire, ils connaissent très bien leur lycée, ils connaissent très bien les gens qu'il faut voir, rencontrer, convaincre. Et ce sont souvent nos élèves de première et terminale qui sont à l'initiative de certains projets, comme les poubelles, comme le fait que nous nous soyons associés avec le lycée agricole. Donc finalement, chaque niveau, chaque âge a son degré de responsabilité.
Qu'est-ce que c'est la guerre des bouchons et à quoi ça sert?
Alors, la guerre des bouchons est une forme de motivation que nous avons trouvée, et nous avons trouvé le titre assez ouvert par rapport à la guerre des boutons. Nous travaillons avec le SMD3, qui est l'organisme de recyclage, et le SMD3 nous a parlé d'un partenariat possible avec la Fondation Bergonier à Bordeaux. La Fondation Bergonier, c'est un centre de recherche et de lutte contre le cancer. Et on a décidé de provoquer en duel deux classes, la première ESA et la première ESP, afin de collecter le maximum de bouchons, tout ça au bénéfice de la Fondation Bergonier. Alors bien sûr, l'idée, on pourrait faire appel à la générosité naturelle des élèves et on leur dit « amenez des bouchons », mais en leur mettant une dimension de concurrence, une dimension de jeu et en mettant une dimension alimentaire, puisqu'on leur a promis un buffet, pour les récompenser. On pense que la forme jeu est peut-être de façon plus active, plus efficace qu'un discours généraliste.
Merci beaucoup.
Ces actions mises en place dans le lycée touchent-elles réellement les lycéens? Font-ils eux aussi des efforts? Un micro-trottoir de Jason et Loïc.
Alors, quelle action faites-vous pour le développement durable?
En terminale?
Non, en revue générale.
Alors, déjà chez moi, on fait le tri sélectif, donc un peu de tout. Personnellement, j'essaie de consommer un peu moins, en achetant des vêtements que quand j'en ai vraiment besoin. Pour le transport, je reviens chez moi en bus, donc j'ai moins de CO2. L'aller, je viens en voiture, c'est une voiture hybride.
Je pense que c'est des actes quotidiens, donc faire le tri, faire attention à la consommation d'eau à la maison, utiliser les transports communs, l'électricité, tout ça quoi, dans la vie de tous les jours.
Ce qui vous pousserait à faire le développement durable?
Je sais pas, on sent des pubs, choses comme ça, ou genre soit à la télé, faire...
Alors qu'est-ce qui vous intéresse au développement durable?
Je pense qu'on en parle pas mal déjà au lycée, dans le milieu scolaire, donc peut-être plus en parler. Faut que les jeunes ils soient,
plus touchés, soient
investis, soient plus touchés par
c'est
ça.
Que les supports soient plus modernes. Parce que maintenant les jeunes ils sont beaucoup sur internet, des choses comme ça.
Faire des choses via Internet.
Oui, Internet, même bien.
Donc encore du travail à faire pour mobiliser les jeunes au développement durable. La COP21, qui a lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris, pourrait alors permettre de sensibiliser les jeunes aux problèmes environnementaux. Qu'y a-t-il derrière ce sigle ? Plus d'informations avec ce reportage des terminales ESA réalisé à Bordeaux. Monsieur Compagnon, professeur à Sciences Po Bordeaux, spécialiste des questions environnementales, présente l'historique des COP.
Les négociations climatiques, on en parle un petit peu dans les médias depuis quelques mois. On va en parler de plus en plus, hein, connaissez l'effet de l'amplification, ça va venir jusqu'au matraquage, jusqu'à plus soif, mais ça fait depuis longtemps que ça dure, cette affaire. Et il ne faut pas perdre de vue la dimension historique, la dimension de processus long, et qui dit processus long dit souvent aussi processus complexe. Hein. Cette affaire, ça a commencé à la fin des années 80, une période où, comme on dit dans notre jargon, ça a été mis sur agenda à l'échelle internationale, par des conférences scientifiques, par la création du GIEC à la fin des années 80, et par le lancement des premières négociations entre les États, qui ont débouché sur la convention cadre, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, qui encadre tous ces débats, qui a été adoptée en 1992 sur la Terre à Rio. Cette convention cadre, dont vous voyez revenir l'acronyme barbare souvent, CNUC, UNFCCC ici en anglais. L'inconvénient de cette convention, on aurait pu dire, c'est le job est fait, non, parce qu'en réalité, elle ne fixait pas d'engagement précis. Il y a eu ensuite, comme vous le savez, parce que vous en parlez beaucoup dans vos travaux préparatoires, la conférence des parties. Alors la conférence des parties, c'est ce qui va se réunir à Paris. C'est pas une conférence, la conférence qu'on va avoir à Paris, la COP, hein, le COP, ça veut dire Conference of Parties, en anglais. Donc cette conférence des parties, ce sont tous les États qui ont signé la convention cadre, dont je vous parlais à l'instant, 92, et qui se réunissent tous les ans. Tous les ans. D'accord ? Donc ça fait, depuis cette époque-là, qu'ils se réunissent tous les ans, avec un succès évidemment extrêmement variable. En 97, quand ils se sont réunis, ils ont adopté le protocole de Kyoto. Protocole de Kyoto, sur le papier, c'était pas mal parce qu'il y avait des engagements précis, un calendrier, enfin, mais seulement pour les pays développés. Le choix politique a été fait de réserver à ce moment-là les engagements contraignants pour les pays développés. Hein. Et évidemment, ce protocole de Kyoto, il a connu ensuite une fortune assez mauvaise, puisqu'il a été d'abord très laborieusement mis en application, parce que quand on signe un accord international, après, il faut que les États le ratifient pour que ça rentre en application. Et vous savez que les États-Unis n'ont jamais ratifié.
Les précédentes conférences n'ont pas eu les effets escomptés. Qu'en sera-t-il pour la 21e ? Alexis et Amy nous donnent leur avis.
Quel est son objectif ? Diminuer la pollution. Pour les 196 pays qui y participent, c'est un grand défi à relever. Mais certains jouent plus ce jeu que d'autres. En effet, les pays comme l'Éthiopie, le Maroc, le Costa Rica ou le Brésil se mobilisent et prévoient une baisse impressionnante, 45 à 64% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Les États-Unis et l'Union européenne, quant à eux, se reposent sur leurs acquis. Ils pourraient faire beaucoup, mais ils ne font que le minimum. D'autres pays sont moyennement impliqués. La Chine, premier pollueur au monde, qui manque encore un peu d'ambition. L'Inde, troisième pollueur. Enfin, dans la catégorie des cancres, l'Australie maintient l'énergie la plus polluante, le charbon, et prévoit une baisse de seulement 23% d'ici 2020. Autre mauvais élève, le Canada, le Japon, la Russie ou encore la Turquie, qui a particulièrement estomaqué les observateurs avec son annonce de baisser ses émissions de 15% par rapport à la tendance actuelle d'ici à 2030. Il manque encore les ambitions de quelques retardataires, des pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Irak ou le Venezuela, qui n'ont rien envoyé pour l'instant. On remarque que l'hétérogénéité des pays pose des problèmes et qu'elle réduit donc l'efficacité de la conférence. Un autre aspect à prendre en compte est le fait que la COP21 coûte cher, 170 millions d'euros cette année. Les États ont alors décidé de faire appel à des entreprises privées pour amortir le coût. Mais lorsqu'on voit quelles sont ces entreprises sollicitées, on peut se poser certaines questions. Prenons Engie, producteur important de gaz de schiste, qui, rappelons-le, pollue 34 à 86 fois plus que le CO2. Ou bien Renault-Nissan, qui a explosé le record en vendant 8,5 millions de voitures fonctionnant au pétrole. Ou encore BNP Paribas, qui a investi 10,8 milliards d'euros dans l'extraction de charbon. Si les grands pollueurs de la planète sponsorisent la COP21, n'est-ce pas uniquement dans le but de de leur donner une bonne image et non pour sauver la planète. La COP 21 est donc une bonne initiative et pourrait être utile, voire la solution, si seulement tous les pays étaient d'accord sur le même objectif.
Beaucoup d'incertitudes donc quant aux résultats concrets de cette conférence sur le climat. Est-ce la raison du désintérêt des jeunes vis-à-vis de la COP 21 ? Gaëlle, Laure et Margot sont parties dans le lycée interroger les élèves.
La COP 21 intéresse-t-elle les jeunes ? Pour le savoir, nous avons interrogé les lycéens de Jette Beaufort.
Est-ce que vous savez ce que c'est la COP 21 ?
Non.
C'est une conférence ?
Non, pas du tout.
Je ne sais pas.
Ah non, pas du tout.
Est-ce que vous savez ce que c'est la COP 21 ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une conférence sur l'environnement qui va se dérouler à Paris prochainement.
D'accord. Et vous savez qui est concerné ?
Alors là, les pays, enfin je pense les plus gros pays.
Et est-ce que vous avez suivi cette conférence ?
Pas du tout.
Pour toi, c'est quoi le développement durable ?
Le développement durable, c'est ce qui allie économie sociale et environnement.
Et quelles actions serais-tu prête à faire pour le développement durable ?
Pour ça, je serais prête à faire beaucoup de tri chez moi.
Globalement, nous avons pu voir qu'elle n'intéresse pas les jeunes.
Les jeunes sont donc globalement assez peu mobilisés par le développement durable et la COP 21. Or, c'est inquiétant car ce sont eux qui seront responsables et peut-être victimes des atteintes à l'environnement dans 20 ans. Comment intéresser les jeunes au développement durable ? Comment les mobiliser ? L'école est-elle un bon agent de socialisation pour sensibiliser aux enjeux du développement durable et donc changer les comportements ? Un débat mené par Arnaud.
Pour ce débat, j'ai invité Eva, parent d'élèves, Lilian, députée chargée du développement durable dans son parti, Zoé, professeur d'histoire-géographie, ainsi que Marion, élève en première ES. Pour commencer ce débat, je vais donner la parole à Lilian.
Bonjour. Tout d'abord, je pense que l'école est un très bon agent de socialisation car il permet de sensibiliser et les élèves et leurs parents. Quand les élèves rentreront chez eux, ils pourront faire le tri et ainsi dire à leurs parents de trier. Qu'en pensez-vous, Eva ?
Moi, je pense qu'il manque de formation aux professeurs et que si vous avez supprimé les postes de formateurs, les professeurs ne peuvent pas avoir de formation pour le développement, pour assurer des cours de développement durable.
Et vous, Zoé, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense qu'en effet, en tant que prof d'histoire géo, je serais bien placée pour parler du développement durable avec les élèves, mais il faudrait des formations.
À vous, Lilian ?
Je pense que si mon parti est élu, on fera en sorte que les profs aient des formations, car il n'est pas convenable que des enseignants enseignent des choses à leurs élèves sans savoir de quoi ils parlent.
Et vous, Marion, un mot à dire sur le sujet ?
Moi, en tant qu'élève, je me demande si des cours, du coup, seront rajoutés exprès sur le développement durable, parce qu'on en a déjà beaucoup, donc c'est...
Certes, il y en a déjà beaucoup, mais comme on l'a pu le voir précédemment dans les reportages, les élèves ne sont pas sensibilisés et ne font pas en sorte de trier ou ne sont pas, en tout cas, affectés par le développement durable.
Zoé, oui ?
Moi, je pense que, comme dit Marion, les programmes sont déjà assez chargés et rajouter en plus le développement durable, il faudrait peut-être plutôt penser à d'autres moyens que rajouter en plus des cours.
Et vous, Eva, avez-vous un avis sur le sujet ?
Moi, je pense qu'il serait préférable de ne pas supprimer des heures d'histoire pour faire du développement durable, mais plutôt d'enseigner le développement durable d'autres manières, d'une autre façon.
Marion, vous qui êtes directement concernée par cette mesure, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense qu'il faudrait un système plutôt avec des sorties ou des choses comme ça pour vraiment que ça nous intéresse et qu'on soit vraiment impliqué en fait.
Mais ces mesures ne coûtent-elles pas trop cher ?
Les sorties pourront être envisagées. Le problème, c'est bien évidemment les finances. Et celles-ci pourront être effectuées que dans les établissements qui peuvent financer forcément. Peut-être qu'on pourra donner de l'argent pour les lycées, mais ça ne sera pas trop.
Oui, mais si vous voulez financer des formations pour les profs, vous seriez capable aussi de financer des sorties, non ?
Oui, mais les sorties coûtent bien plus cher que financer des remises à niveau pour les profs.
Les sorties, elles coûtent peut-être plus cher, mais elles sont bien plus efficaces que des cours théoriques donnés par des professeurs.
Oui et non. Par exemple, je sais... Est-ce qu'il y a... Marion, avez-vous déjà fait des sorties de développement durable?
Moi, j'en ai jamais fait, personnellement.
Et ça vous intéresserait vraiment?
Ben, moi, je pense, enfin, moi, personnellement, ça m'intéresserait. Après, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est déjà plus intéressant de faire des sorties que d'assister à un cours.
On pourrait donc le financer. Le problème, c'est qu'il n'y en aurait pas tous les jours, ni tous les mois, car ça coûte extrêmement cher.
Mais une ou deux dans l'année, c'est déjà pas mal, je pense.
Mais on peut d'abord se poser la question, est-ce que les professeurs seraient prêts à accompagner les élèves dans ces sorties?
Moi, en tant que professeur d'histoire, je serais prête à les accompagner, mais après, pas sur des heures de cours.
Oui, donc il faudrait trouver un moyen de remettre ces heures de cours dans un nouvel emploi du temps mieux adapté. Lilian, peut-être avez-vous la solution?
Il faudrait le penser, tout d'abord, mais je pense que c'est faisable.
Mais alors, vous voudriez rajouter des heures supplémentaires?
Ce serait des heures supplémentaires, mais qui ne rajouteront en rien du travail aux élèves.
Oui, mais les élèves, ils ont suffisamment d'heures de cours en France comparé aux autres pays dans le monde, donc je trouve que ça fait beaucoup quand même.
Ils ont peut-être beaucoup d'heures de cours, mais ils ont aussi beaucoup de vacances.
Oui,
beaucoup de vacances, c'est à bord quand même.
Les vacances d'été, les vacances de la Toussaint, et j'en passe, donc ils en ont beaucoup.
Sur ce, merci d'avoir écouté ce débat. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau débat qui sera sûrement très passionnant.
De nombreuses questions ont donc été posées lors de cette émission, mais nous n'avons pas toutes les réponses.
Green FM, la radio verte.
Apprends, restons verts.